France Info.
France Info.
C'est un France Info Junior exceptionnel aujourd'hui. Bonjour Gilles Allais.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous avez emmené 3 enfants au cœur d'un véritable bunker, la caserne, le siège du GIGN, et ils ont assisté à un entraînement de ce groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Et
oui, une unité d'élite unique au monde à laquelle on confie depuis 40 ans, les missions les plus délicates, les plus dangereuses, arrêter les forcenés, libérer des otages ou encore intercepter des go-fast, ces convois de grosses cylindrées qui remontent à fond l'autoroute depuis l'Espagne, le coffre bourré de drogue.
Au total, près de 400 hommes et femmes, dont 250 au sein des différentes unités opérationnelles.
24 heures sur 24, 2 sections d'une vingtaine d'hommes sont en alerte permanente, prêts à partir dans les 30 minutes. À leur tête, le général Thierry Orozco, 53 ans, dont 30 ans au sein de la gendarmerie, et au micro pour l'interroger, Augustin, 8 ans, Juliette, 12 ans, Thibaut, 13 ans.
Il y a quoi comme métier dans le GIGN ?
On va dire qu'il y a 3 grands métiers. Le premier métier, on appelle ça l'intervention. Quand on doit arrêter quelqu'un, on doit l'attraper, forcément un méchant. Ou alors, quand on doit libérer un otage, c'est-à-dire quelqu'un qui est prisonnier de méchant. Le deuxième métier, on appelle ça l'observation-recherche. Apprendre à connaître ceux qui sont nos adversaires, avoir des renseignements sur eux, les gens qu'ils rencontrent, où ils vont, comment ils font. Tout ça, soit pour qu'après on puisse les emmener au tribunal pour un procès, ou alors soit pour qu'on puisse avoir des éléments pour monter une opération. Et le troisième grand métier qui existe au GIGN, c'est le métier que l'on appelle sécurité-protection, qui consiste à protéger des gens qui vivent dans des pays où il y a la guerre ou en crise. Alors c'est généralement des ambassadeurs de France, donc ambassadeurs de France à Bagdad actuellement, donc en Irak, ou ambassadeurs de France en Libye.
Est-ce que c'est aussi le GIGN qui assure la protection du président ?
Le président de la République est protégé par des policiers et par des gendarmes. En gros, 30 gendarmes et 30 policiers. Les 30 gendarmes viennent tous du GIGN. Il y a 29 garçons et une fille.
Et est-ce qu'il y en a dans d'autres unités, des filles au GIGN ?
On retrouve des filles dans les métiers des opérations, les filles qui vont en mission. On a des filles qui sont dans l'observation-recherche, donc qui font du renseignement. Et on a des filles qui sont dans la sécurité-protection.
Qui peuvent venir travailler au GIGN ?
Pour travailler au GIGN, la première chose, il faut être gendarme. La deuxième chose, il faut être volontaire. Ça veut dire qu'on se prépare à passer des tests qui sont physiques et qui sont psychologiques. Et généralement, on se prépare pendant 2 ans pour passer les tests. Une fois qu'on a passé les tests, on a encore 15 mois de formation. Et pendant ces 15 mois, on va apprendre aux gens leur métier pour pouvoir partir en mission.
Alors Gilles, les hommes du GIGN, il faut le préciser, c'est quand même la crème de la gendarmerie.
Oui, physiquement, mentalement, ils sont d'une résistance hors du commun et d'un sang-froid à toute épreuve. Ils sont tous tireurs d'élite et parachutistes, c'est la base. Et puis ils ont d'autres spécialités comme la nage de combat, la négociation, le tir longue distance par exemple. Leur métier, faire face aux situations dont eux seuls sont capables de venir à bout.
Quelle opération a été la plus difficile pour le GIGN ?
On a coutume de dire ici qu'il n'y a pas d'opération qui soit plus dure que d'autres. Alors il y en a une qui est très médiatique, c'est quand il y avait un avion qui était détourné il y a 20 ans, vous n'étiez pas né, à Marseille, et ça c'était une très grosse opération. Mais toutes les opérations dans lesquelles le GIGN est engagé sont des opérations qui sont dangereuses et qui sont très difficiles. Donc on prend chaque opération avec beaucoup de sérieux et on évite toujours de dire « ça c'est pas une opération bien difficile, ça va bien se passer ». C'est quand c'est fini qu'on dit finalement ça s'est bien passé et c'était pas si dur que ça.
Quand vous partez en opération pour délivrer des otages, c'est quoi le plus important ?
Ce qui est toujours le plus important pour nous, c'est la vie de l'otage. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour sauver l'otage et qu'à la fin, il soit libre et en bonne santé. Mais on va dire que sur chaque opération, pour nous, l'important, c'est de faire un travail que d'autres ne peuvent pas faire. Et on sait que si nous, on n'est pas là, il n'y a personne qui pourra faire ce travail. Toutes les opérations qui sont dangereuses sont des opérations où on fait appel à nous parce que les forces de gendarmerie qui sont partout en France estiment que là, ça serait trop dangereux pour eux ou techniquement trop difficile. Donc on fait appel à nous en disant « j'y arrive pas, venez nous aider ».
Et si pour sauver l'otage, faut le blesser, vous le faites ou pas ?
Blesser l'otage ? Ah, on va éviter de blesser l'otage. Pour nous, il faut que l'otage soit sain et sauf. Alors il peut arriver que pour sauver l'otage, on blesse la personne qui le prend en otage. Ça, on évite jusqu'au dernier moment de le faire parce qu'on respecte la vie.
C'est pour ça qu'il y a des négociateurs ?
Négocier, c'est vrai que c'est pour essayer, en discutant, de résoudre un problème en évitant d'employer la force. Mais c'est un des outils qu'on utilise pour trouver une solution. On a cet outil-là et on en a beaucoup d'autres.
Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de tuer le preneur d'otage pour pouvoir libérer un otage ?
Malheureusement, ça peut nous arriver. Quand on tue quelqu'un, c'est d'abord parce qu'à un moment donné, on a été dans l'obligation de le faire. Sans ça, l'otage risquait d'être tué. Ou peut-être que nous aussi, on risquait d'être blessé ou tué par le preneur d'otage. Quand on utilise la force, c'est toujours parce qu'en face, quelqu'un fait usage de la force. On n'utilise pas la force comme ça. On a toujours une force qui est mesurée.
Une force mesurée au service donc de la précision et de l'action, du respect de la vie humaine que l'on retrouve, Gilles, dans une devise du GIGN.
Oui, s'engager pour la vie, hein, parce que la force est toujours utilisée en dernier recours, comme sur le tarmac de Marignane en 1994. Le général Orozco y faisait allusion à l'instant. À bord d'un Airbus d'Air France, quatre terroristes islamistes. L'assaut est donné après 54 heures de négociations, 20 minutes d'intervention. Les quatre terroristes sont abattus et tout les otages sont sains et saufs.
Quel équipement utilisez-vous pour vos opérations ?
Énormément de matériel. Chaque gendarme du GIGN a beaucoup de matériel personnel. Il a son propre gilet pare-balles, il a son propre casque. Ils ont entre 8 et 10 armes chacun, en fonction de la mission. Ça, c'est important que chacun ait un équipement individuel. Et après, on a des équipements collectifs. Vous avez peut-être vu un gros véhicule noir et blindé avec une grande plateforme pour monter à l'assaut des avions. Et on en a énormément. Pour apprendre à connaître les matériels et s'en servir, on doit s'entraîner. Et s'entraîner, ça veut dire travailler, travailler et encore travailler.
Et vous inventez aussi des matériels vous-même ou pas ?
Il nous arrive d'inventer des matériels. Et quand on les invente, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose et on ne le trouve pas. Alors comme on ne le trouve pas, ben on l'invente.
Oui, c'est le cas des fameux Swatek, hein, ces énormes 4x4 blindés avec une plateforme qui s'élève jusqu'à la hauteur d'un avion.
Alors un livre, Gilles, pour en apprendre plus si on a envie sur le GIGN.
Qui fête ses 40 ans, hein, je le rappelle. Le livre s'appelle tout simplement « Le GIGN » chez Nan Édition. Il est préfacé par le grand patron de la gendarmerie nationale, le général Denis Favier, l'ancien patron du GIGN.
Et l'intégralité de l'interview du général Thierry Orozco est donc à retrouver sur junior.franceinfo.fr avec des bonus, Gilles.
Oui, le général Orozco évoque les images et les missions qui l'ont le plus marqué au cours de sa carrière. Il prend sa retraite dans quelques semaines.